Bonsoir. Un tournant pour l'Europe, une première dans l'histoire de l'Union européenne. Les 27 vont acheter et livrer des armes soutien aux Ukrainiens. Une annonce ce soir de la présidente de la Commission européenne en réponse à l'offensive russe en Ukraine. Nous serons à Bruxelles. Une réponse alors que Vladimir Poutine franchit une nouvelle étape, un nouveau cap. Il place en alerte sa force de dissuasion. La Russie est la première puissance nucléaire mondiale. Avec vous Claire Servageant jusqu'à 20h, un téléphone sonne spécial consacré évidemment à ce quatrième jour de guerre en Ukraine.
Et oui, on va poursuivre la réflexion sur tous les sujets que vous allez développer, car les questions sont multiples, qu'il s'agisse de l'aspect militaire, de l'aspect diplomatique, des sanctions économiques qui ont été décidées contre la Russie. Alors, si vous avez des questions, des spécialistes seront là pour y répondre. N'hésitez pas à appeler le 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, le détail des sanctions européennes, les médias russes, Sputnik et Russia Today interdits en Europe. Plus de 100 000 personnes dans les rues de Berlin, les manifestations pour la paix en Ukraine prennent de l'ampleur. Et les révélations sur le groupe Ericsson, soupçonné d'avoir payé pour travailler dans une zone contrôlée par le groupe terroriste Daesh en Irak. Révélation de la cellule Investigation de Radio France ce soir.
France Inter.
Et maintenant, la menace nucléaire, nouvelle étape dans l'escalade des mots au Kremlin. Vladimir Poutine ordonne la mise en alerte de sa force de dissuasion, une force qui comprend notamment la composante nucléaire. Le président russe en a fait l'annonce à ses responsables militaires, à son ministre de la Défense notamment, entrevue retransmise à la télévision russe en début d'après-midi.
Chers collègues, vous pouvez constater que les pays occidentaux ne prennent pas seulement des mesures inamicales contre notre pays dans le domaine économique, je veux parler des sanctions illégitimes que tout le monde connaît, et que des hauts fonctionnaires des principaux pays de l'OTAN font également des déclarations agressives sur notre pays. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de mettre les forces militaires de dissuasion russes en régime spécial d'alerte au combat.
Vladimir Poutine cet après-midi au Kremlin. Alors brandir cette menace nucléaire se justifie selon lui face aux sanctions, notamment économiques, prises par les pays occidentaux. Mais Valérie Crovat, de quoi parle-t-on exactement? La dissuasion regroupe différents dispositifs militaires. Les forces d'attaque russes sont équipées de missiles balistiques, de bombardiers stratégiques, de sous-marins, de navires en surface. Il faut rappeler, Valérie, que la Russie, c'est surtout la première puissance nucléaire mondiale.
Avec 6255 ogives, la Russie précède les États-Unis au classement de l'arsenal nucléaire mondial, loin devant la France et ses 290 ogives. Durant les derniers mois, le Kremlin a multiplié les actions démonstratives pour souligner l'importance de ses forces nucléaires. Ainsi, le Satan II, dernier missile présenté par la télévision russe, il peut contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires et peut atteindre la France grâce à sa capacité d'action de 10 000 km. En avril dernier, la chaîne américaine CNN a également révélé la présence de 3 sous-marins russes dans l'océan Arctique, lesquels étaient en train de mener des essais pour perfectionner une arme redoutable, la torpille nucléaire Poséidon 2M39. Équipée d'une ogive thermonucléaire, elle est capable de provoquer une explosion de 30 à 100 mégatonnes, une puissance supérieure à celle de la Tsar Bomba, la bombe atomique la plus puissante jamais utilisée lors d'un essai en 1961.
Et les condamnations internationales ne se sont pas fait attendre. Vladimir Poutine fabrique des menaces qui n'existent pas pour le porte-parole de la Maison-Blanche. Une manière de justifier, selon lui, des agressions supplémentaires à venir. Une conduite irresponsable, dénonce de son côté le secrétaire général de l'OTAN. Mais la réponse la plus ferme, elle est venue de Bruxelles ce soir par la voix d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et de Josep Borrell, le patron de la diplomatie de l'Europe. Un nouveau volet de sanctions économiques annoncé à l'encontre de la Russie. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Il y a surtout, Angélique, ce soir, ce tournant pour l'Union européenne dont les institutions sont fondées pour garantir la paix sur le continent. L'Union, Angélique, annonce ce soir, et c'est une première, l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine.
Oui, on a coutume de dire que l'Union européenne est une puissance économique, mais un nain politique et militaire. Eh bien, cette annonce marquera sans doute une histoire, une étape dans sa construction que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs qualifié tout à l'heure de décisive. Des fonds spéciaux devraient être débloqués. Hein, c'est ce qu'a précisé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, pour qui il fallait une réponse puissante à cette attaque qui vise, selon lui, l'Europe tout entière.
Nous allons actionner le mécanisme de facilité de la paix européenne pour financer la fourniture de matériel létal à l'armée ukrainienne, ainsi que du carburant, des équipements de protection et des fournitures médicales d'urgence. Un nouveau tabou qui est tombé.
Après l'Allemagne, plusieurs pays vont ainsi rompre avec leur doctrine. La Suède, par exemple, qui n'a jamais fourni d'armes à quiconque depuis 1939. À noter que les 27 ont aussi annoncé tout à l'heure la fermeture des médias d'État, Russia Today et Sputnik, pour, dit-on ici, interdire leur désinformation qualifiée de toxique. Ils vont collectivement également interdire le survol de l'Europe par les avions russes, y compris les jets privés. Ils annoncent enfin un nouveau train très sévère de sanctions contre la Biélorussie. Les secteurs du bois, du ciment, du fer, de l'acier et du tabac seront concernés.
Angélique Boin, correspondante de France Inter à Bruxelles, merci beaucoup. Une réponse et des sanctions, vous le disiez, coordonnées donc au niveau européen, alors que la France préside en ce moment le Conseil de l'Union européenne. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Service politique de France Inter, y a-t-il une réaction du côté de l'Élysée ce soir ?
Alors, pas de réaction officielle, mais à l'instant, un proche du président confie à France Inter qu'Emmanuel Macron a réclamé et obtenu une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle aura lieu demain à 15h. Il s'agit de répondre aux nouvelles menaces nucléaires de Vladimir Poutine. La Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, a un droit de veto à l'ONU, mais l'objectif du président français est d'isoler encore un peu plus son homologue russe sur la scène internationale. Emmanuel Macron a notamment tenté de convaincre aujourd'hui par téléphone le prince héritier des Émirats Arabes Unis qui s'était abstenu vendredi lors d'un vote d'une résolution dénonçant l'agression de l'Ukraine. L'Élysée annonce aussi à l'instant la tenue d'un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale demain à 11h au palais présidentiel. Là, il s'agira d'élaborer la réponse française à ces menaces de Poutine. Je rappelle que la France est la seule dans toute l'Union européenne à posséder l'arme atomique. Pour le dire plus trivialement, Emmanuel Macron est le seul en Europe, hormis le Royaume-Uni, à pouvoir appuyer sur le bouton. L'Élysée, dans ce contexte d'escalade, est consciente également de la nécessité de rassurer les Français. L'entourage d'Emmanuel Macron envisage, mais rien n'est calé pour le moment, une nouvelle adresse aux Français. Emmanuel Macron pourrait s'exprimer à nouveau dans les prochaines heures.
Simon Le Baron, en direct sur France Inter. Merci beaucoup.
Et alors que la menace nucléaire est brandie par Moscou ce soir, des négociations s'ouvrent entre Russes et Ukrainiens.
L'Ukraine a finalement accepté l'offre de négociation de la Russie. Ce matin, Moscou souhaitait dépêcher une délégation en Biélorussie. Refus du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a gardé la porte ouverte à des discussions à un autre endroit. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir.
Un rendez-vous a été fixé à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Vous êtes en direct de Kiev, envoyé spécial de France Inter. Que sait-on, Eric, de ces pourparlers ce soir ?
Alors, les conditions de cette négociation sont encore un petit peu floues. Hein. Il y a 2 heures, le représentant du président ukrainien auprès de la Cour constitutionnelle, Fedor Vanilavski, parlait de pourparlers qui pourraient débuter, je le cite, dans quelques heures à la frontière Ukraine-Biélorussie. Plus précisément sur la rivière Pripyat. La rivière Pripyat, c'est celle qui permettait de refroidir le réacteur de Tchernobyl. Les troupes russes occupent la rive occidentale de cette rivière et la zone du réacteur. Et les Ukrainiens sont encore en face, sur l'autre rive, dans une sorte de corridor, un entrelac de forêts et de marais. Plus à l'est, en effet, une offensive russe de ces derniers jours occupe le terrain également. Difficile donc pour les Ukrainiens de se rendre à la frontière sans s'exposer. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a reçu des assurances d'Alexandre Loukachenko, son homologue biélorusse, comme quoi aucun hélicoptère, aucun avion ou missile ne serait lancé du territoire biélorusse pendant la durée de cette négociation. Une bonne partie de l'attaque russe contre l'Ukraine, en effet, notamment les offensives sur Kiev, partent de Biélorussie, qui, de ce fait, est une nation co-belligérante dans ce conflit. La composition de la délégation ukrainienne n'a pas été précisée. Il y aura probablement là des militaires, peut-être des diplomates également. Le président Zelensky a prévenu qu'il n'attendait pas grand-chose de ces négociations, mais, a-t-il précisé dans sa dernière adresse vidéo tout à l'heure, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé.
Eric Biegala en direct de Kiev. Et ce soir, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme du manque d'oxygène à venir dans certains hôpitaux ukrainiens pour soigner les blessés. L'OMS qui exige la mise en place de couloirs humanitaires sûrs pour acheminer l'oxygène dans les lieux de soins. Sur le terrain, dans la capitale ukrainienne, les combats se poursuivent. Les habitants vivent encore un dimanche sous cloche, un couvre-feu renforcé depuis hier soir 17h jusqu'à demain matin 8h. Beaucoup se réfugient dans les abris, le métro totalement à l'arrêt, une ville fantôme. Comment les Ukrainiens se mobilisent-ils dans ce contexte? Nos envoyés spéciaux Gilles Gallinaro et Omar Waman ont rencontré une ancienne ministre ukrainienne qui appelle à l'aide ce soir les Occidentaux.
C'est une ville assiégée que les forces russes tentent de prendre. Tous les axes principaux sont quadrillés par les militaires ukrainiens. Oulouna Souproun, ancienne ministre de la Santé.
L'un de leurs objectifs est de capturer le président Zelensky. L'autre objectif, c'est de prendre la capitale, parce qu'elle symbolise toute l'Ukraine.
Et depuis le début du conflit, de plus en plus de voix appellent à renforcer les sanctions contre la Russie et à fermer l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine.
Aidez l'Ukraine, s'il vous plaît. Faites pression sur votre gouvernement. Dites-lui d'instaurer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, supervisée par l'OTAN, pour empêcher les Russes de mener des raids aériens et de lâcher des bombes sur les citoyens ukrainiens. Et nous serions très heureux que la France parraine l'Ukraine afin qu'elle intègre l'OTAN et l'Union européenne.
Mais ce chemin est encore très long. Si les États-Unis refusent de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine, comme le demande la Russie, la France et l'Allemagne avaient en 2008 rejeté la perspective d'une adhésion rapide de Kiev dans l'Alliance contre l'avis de Washington. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Et pour soutenir les Ukrainiens, l'aide internationale se met en place. Dernière annonce, celle des États-Unis qui débloque 54 millions de dollars supplémentaires d'aide humanitaire pour l'Ukraine. La Banque mondiale annonce de son côté une réunion des ministres des Finances du G7 mardi afin d'évaluer le montant de l'aide à apporter au pays. Dans ce conflit, le bilan des pertes humaines des deux côtés de la guerre est en lui-même un enjeu. Kiev annonce avoir tué plus de 4300 soldats russes. Mais il a fallu 4 jours à l'armée russe pour reconnaître des pertes. Des soldats russes sont bien morts en Ukraine, a dit aujourd'hui le ministère de la Défense à Moscou, sans toutefois donner de bilan. L'enjeu de la communication autour des militaires tués est en quelque sorte une guerre dans la guerre, Vanessa Descoureaux, et les Ukrainiens l'ont particulièrement bien compris.
L'image du corps d'un soldat russe, étendu, son cadavre en partie recouvert par la neige, a eu le temps de faire le tour du monde, mais Moscou ne reconnaissait toujours pas de pertes humaines. C'est donc sur le terrain de la transparence que Kiev lance un autre front, en créant un site à destination des familles russes, inquiètes pour leurs fils. On y voit des vidéos de soldats arrêtés, des passeports, des numéros d'identification. En réponse, ce matin, Moscou a donc annoncé la mort de son premier soldat. Kiev ne communique pas de bilan sur ses pertes humaines, mais certains militaires ou volontaires sont glorifiés après avoir donné leur vie pour empêcher les Russes de progresser. Un visage retient l'attention, celui d'une femme, Irina Tsvila, 5 enfants, ancienne combattante dans le Donbass, morte il y a 2 nuits de cela dans le nord de Kiev. Elle avait écrit un livre sur son expérience sur le front. Elle y parlait de guerre, beaucoup, de son pays surtout, et de sa passion, les fleurs, les roses en particulier.
Vanessa Descoureaux, envoyée spéciale de France Inter en Ukraine. Et conséquence de ce conflit, des millions de personnes jetées sur les routes. Un commissaire européen évoque ce soir 7 millions d'Ukrainiens déplacés par la guerre à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières du pays. L'Union européenne doit se préparer à en accueillir des millions, dit la Commission à l'occasion d'une réunion aujourd'hui des ministres de l'Intérieur des 27 à Bruxelles. 370 000 personnes ont déjà passé la frontière selon le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies.
Et au 4e jour de cette guerre, Rémi, des foules jaunes et bleues un peu partout en Europe.
Aux couleurs de l'Ukraine pour exiger la fin de la guerre. Manifestation à Vilnius, à Athènes ou bien à Prague au cri de stopper la guerre, stopper Poutine. Et rassemblement monstre cet après-midi également à Berlin en Allemagne. À Nathalie Versieux, plus de 100 000 personnes se sont rassemblées autour de la porte de Brandenburg.
Poutine assassin, Poutine au tribunal de la Hague, Poutine dégage, la foule crie sa colère. Légèrement à l'écart, Nikita, 28 ans, lève une pancarte demandant la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine.
À mon avis, les armes tuent des deux côtés. Ma grand-mère vit en Ukraine, son frère vit en Russie. En quoi les armes aident-elles à faire avancer les choses ?
Christian, 45 ans, lève les yeux au ciel.
Je suis letton et allemand. Je suis très content de ce que le chancelier Scholz a annoncé aujourd'hui. Il aurait même dû annoncer bien plus tôt qu'il allait livrer des armes à l'Ukraine. On doit tous se protéger. Ce type est complètement dingue.
Martin et Petro, tous deux Ukrainiens, ont perdu leur voix à force de crier leur colère sous les fenêtres hermétiquement closes de l'ambassade. Informaticiens vivant à Berlin depuis 10 et 14 ans, tous deux veulent croire en la victoire de l'armée ukrainienne. Sur leur pancarte, les derniers mots de leurs héros, les soldats ukrainiens qui ont lancé « fuck la Russie » avant de mourir sous les balles russes à la frontière entre les deux pays. Berlin, Nathalie Versio pour France Inter.
Un message d'appel à la paix à Berlin, relayé également par le pape ce dimanche au Vatican. François, au cœur meurtri, dit-il, qui demande place Saint-Pierre lors de sa prière en public, que les armes se taisent en Ukraine. Dans ce contexte, la Russie pourra-t-elle participer au mondial de football cette année? Alors que de nombreuses équipes annoncent qu'elles refusent de se rendre en Russie pour des compétitions sportives depuis le début de la guerre, le patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët, dit vouloir exclure les Russes du mondial de 2022, dans une interview au journal Le Parisien. La FIFA ne s'est pas encore prononcée.
Il est 19h16 sur France Inter. On en vient, Rémi, à ces révélations de la cellule d'investigation de Radio France. Le groupe Ericsson soupçonné d'avoir financé le groupe terroriste Daesh.
Enquête de la cellule d'investigation de Radio France avec l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation, qui dévoile un vaste système de corruption pour le groupe de téléphonie suédois Ericsson aux 100 000 employés dans le monde. Jacques Monin, le consortium a pu se procurer un rapport interne de la période 2011-2017. Il démontre, Jacques, que le groupe Ericsson aurait financé le groupe Daesh quand il contrôlait une partie du nord de l'Irak.
Oui, ce que dit d'abord ce rapport, c'est que pour décrocher des contrats, Ericsson a payé des pots de vin dans une multitude de pays. En Chine, au Brésil, au Maroc, aux États-Unis, au Liban, en Espagne notamment. Et c'était donc aussi le cas en Irak. Dans ce pays, lorsque l'État islamique a contrôlé une partie du Nord, Ericsson a demandé à un ingénieur de remettre une lettre à Daesh, à Mossoul précisément, lettre dans laquelle le groupe suédois de téléphonie demandait l'autorisation de poursuivre ses activités dans la ville. L'ingénieur a alors été conduit attaché dans un pick-up avec une cagoule sur la tête auprès d'un djihadiste qui a exigé des millions de dollars sous peine de faire sauter les locaux d'Ericsson. On a ensuite assigné cet ingénieur à résidence dans sa maison et puis quelques semaines plus tard, on lui a dit finalement qu'il n'avait plus rien à craindre, d'où ce soupçon qu'entre-temps, Ericsson ait bien accepté de payer.
Un soupçon donc dans ce cas, Jacques, mais le rapport montre aussi qu'Ericsson a clairement payé pour continuer à transporter son matériel en Irak.
Effectivement, une société de transport irakienne a suggéré à Ericsson d'emprunter des petites routes très dangereuses contrôlées par Daesh, plutôt que de passer par la douane, qui elle était souvent bloquée. Ericsson a donc fait transiter 30 camions de matériel, et ce que nous apprend ce rapport secret que nous rendons public ce soir, eh bien c'est que pour le faire, il a payé entre 3000 et 4000 dollars par camion. Le rapport confidentiel pose donc la question de savoir s'il n'y a pas eu, je cite, un financement illicite du terrorisme.
Et tous les détails au sujet de ce rapport, merci Jacques Monin, et de cette enquête de la cellule investigation de Radio France avec le consortium ICIJ sont à retrouver évidemment sur franceinter.fr. franceinter.fr, où vous pourrez également lire ce qui changera demain dans les musées, les cinémas ou encore les restaurants. Le masque ne sera plus obligatoire pour lutter contre l'épidémie de Covid dans les lieux qui reçoivent du public et qui sont soumis au pass vaccinal.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Et après un week-end ensoleillé, quel temps pour demain, lundi, Jean-Michel Golinski?
Le mois de février s'achève sous un soleil vaillant, s'imposant pratiquement partout ce lundi du lever au coucher, avec quelques nuances à signaler pour le quart nord-ouest du pays. Des brouillards assez marqués au lever du jour, du Poitou-Charentes au pays nantais, et un ciel déjà nébuleux sur l'ouest de la Bretagne en début de matinée. En journée, le temps va devenir maussade sur le Finistère et le ciel plus ou moins voilé entre les pays de la Loire et la Basse Normandie. En fin de nuit, les gelées vers moins 1, moins 4 seront fréquentes dès que l'on s'éloigne des bordures littorales. En journée, les maximales d'un bon niveau vont atteindre 18 degrés en moyenne sur les régions du sud-ouest, 15 autour de la Méditerranée et entre 12 et 15 degrés en général sur une large moitié nord du pays.
Jean-Michel Golinski, merci beaucoup.